Version originale, Aligre FM, culture, société, création. Version originale, Patrick, Léon, Émile.
Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue à l'antenne du 93.1 pour cette nouvelle émission de version originale comme chaque samedi à 19h. Un nombre pléthorique de livres ont été écrits sur la guerre sous différentes formes, créant ainsi un corpus de connaissances sur, hélas, d'effroyables événements passés et lointains. Aujourd'hui, ces terribles événements font écho en nous parce que la guerre est réapparue depuis quelques années, proche de nous, ici en Europe. Dans ces livres, nous ne lisons pas seulement des récits de faits de guerre lointains et passés, nous approchons aussi une compréhension de l'humain dont on a toujours besoin. C'est ce que je vous propose de découvrir dans le livre de Fabrice Lardreau, Les fantômes de Potalva. C'est le récit d'un homme dans la guerre et c'est aussi le récit d'une guerre intérieure qui continue de le tourmenter après la guerre. À la page 14 du livre, on lit: Poltava est incrusté dans mon crâne, vissé à mon corps et à mes pensées. Je la traîne comme une tache aveugle, un trou noir absorbant les vivants. Fin de citation. Bonsoir Fabrice Lardreau.
Bonsoir.
Bienvenue à l'antenne d'Aligre FM. Je vous rappelle que vous êtes écrivain, journaliste et éditeur. Vous avez déjà publié une quinzaine de romans. Le dernier livre en date est donc publié aux éditions Héliopole et s'intitule, je le disais, Les fantômes de Potalva. C'est donc l'histoire de Sam Simon, né le 27 février 1924, dans le quartier de Williamsburg, au nord de Brooklyn, à New York. Sam Simon est enrôlé dans l'US Air Force comme radiomitrailleur. En juin 1944, pendant la Seconde Guerre mondiale, donc, il est en Europe, en Ukraine, dans le cadre de l'opération Frantique. Le 23 juin, à Poltava, il assiste, passif, impuissant, au massacre de dizaines de civils, hommes, femmes, enfants. Comment va-t-il donc vivre avec ces images, avec ce souvenir? C'est l'histoire donc de cette blessure morale, de cette blessure de l'âme, de cette blessure à l'âme que vous racontez dans votre livre, Fabrice Lardreau. C'est une histoire vraie. Vous avez donc rencontré Sam Simon, vous allez nous en parler. Avant donc d'entrer donc dans le cœur du texte, j'aimerais que vous nous parliez justement de la naissance de ce livre. Il est construit donc en deux parties, hein, chacune d'entre elles évoque un procédé cinématographique dont nous parlerons. Première partie, le chant. Deuxième partie, contre-chant. Donc, deux voix s'expriment dans le livre, toutes les deux à la première personne. D'abord, Sam Simon lui-même, puis sa fille. Alors, comment ce livre a-t-il été écrit?
Écoutez, c'est une longue et émouvante histoire pour moi. Je dois dire qu'être avec vous ce soir, pour moi, est très particulier parce que c'est la première fois que je parle en public de quelque chose qui était de l'ordre privé jusqu'à il y a encore quelques jours quand le livre est sorti. Donc voilà, excusez mon émotion parce que c'est pas anodin pour moi de parler de tout ça en public, si je peux dire. L'histoire, en fait, elle est très longue. C'est d'abord une histoire d'amitié, c'est-à-dire que Sam Simon était le père d'une de mes très chères et meilleures amies, une américaine qui est installée à Paris depuis maintenant plusieurs décennies. Donc elle vient elle-même de Brooklyn, elle a grandi à Ocean Parkway. Et un jour, elle est installée à Paris, j'ai rencontré son père, donc Sam Simon. Et aussi peut-être cliché que ce soit de dire ça, mais on parle de coups de foudre amoureux, mais il y a aussi des coups de foudre d'amitié. C'est-à-dire que c'était un dîner de Thanksgiving, on était donc certainement en novembre. Je ne peux même pas situer l'année, pour être très franc, c'est un peu flou dans ma mémoire. Mais par contre, je me souviens de cet homme dont je croise le regard et il s'est passé quelque chose. C'est-à-dire que cet homme dégageait un magnétisme, dégageait une humanité, une lumière. C'était un homme lumineux. J'ai vraiment été subjugué par le personnage d'entrée de jeu. Et dans les conversations de ce dîner, sa fille ou sa femme, Rose, on parlait du fait qu'il avait fait la guerre. Et c'est vrai que tout de suite ça a éveillé mon intérêt, si je suis honnête, aussi l'intérêt d'un romancier. Quand on parle d'histoire avec un grand ou un petit âge à un romancier, tout de suite il a une forme d'attention particulière. Donc voilà, j'ai ce personnage m'a d'entrée de jeu fasciné, ému, intéressé. Et puis Sam revenait tous les ans voir sa fille, son mari, et puis leur petit-fils à Paris. Et un jour, je lui ai dit, écoutez Sam, si vous êtes d'accord, j'aimerais bien vous interviewer, que vous me racontiez votre vie, la guerre évidemment que vous avez faite. Il m'a dit oui. Et donc on s'est retrouvés assis à une table, comme vous et moi aujourd'hui, je me souviens très bien, dans la cuisine de ses amis. Et voilà, je suis parti pour le récit d'une vie. Il m'a parlé de beaucoup de choses, évidemment. Je lui ai fait parler de son enfance, du quartier de Brownsville où il a grandi, de ses parents, de sa fratrie, puis évidemment de la guerre. Et ce qui s'est passé pour moi de manière extrêmement troublante, déstabilisante, c'est que au cours de la conversation, il m'a effectivement raconté cet épisode de Poltava que vous avez très bien résumé sans trop en dire tout à l'heure. Et très franchement, sur le moment, j'ai pas compris ce qu'il me racontait. C'est-à-dire que, et c'est là où vous avez encore une fois très bien résumé tout à l'heure les enjeux de mon livre, la guerre et ses conséquences humaines. Franchement, je n'ai pas visualisé ce que cet homme me racontait, et surtout ce que je ne pouvais pas savoir, évidemment, c'est que j'étais le premier auquel il le racontait. Donc c'était une double... C'est une responsabilité pour moi, enfin, d'être là aujourd'hui, d'avoir écrit ce livre. Voilà, donc j'ai eu cette conversation, et après a commencé un très très long processus, une très longue gestation, parce que sa fille m'a gentiment retranscrit la conversation, que j'ai toujours sur un CD. Plus tard, j'ai interviewé sa femme, Rose. J'ai interviewé sa fille elle-même à plusieurs reprises, parce que je voulais raconter... J'avais le projet au départ du récit d'une famille américaine, avec ce qu'elle avait un petit peu d'emblématique, puisqu'il y a aussi toute la question de l'émigration, de gens qui viennent d'Europe pour émigrer au début du XXe siècle. Enfin, il y a toute une généalogie, quelque chose qui m'intéressait par rapport à une certaine Amérique dont je voulais parler. Et donc voilà, il a fallu, ça m'a pris 10 ans, il a fallu, comment dire, digérer ce matériau, savoir lui donner sa forme littéraire, sa forme humaine. Évidemment, je me suis rendu sur place, à New York. J'ai visité les vestiges de la base de Nettie Shoal, qui est dans le sud-est anglais, à côté de Norwich. Et ce qui est très touchant, c'est qu'il y a un petit musée qui a été aménagé, où tous les ans étaient reçus des vétérans américains. Et puis, quelques vestiges de la base, qui pour beaucoup d'entre eux ont été reconvertis en bâtiments agricoles. Donc voilà, j'ai fait ces repérages, j'ai été à Brownsville, j'ai été à Brooklyn, j'ai un petit peu été sur les lieux, j'ai arpenté les lieux où mon personnage était né, avait grandi. Et après, voilà, il a commencé ce long travail fait de moments de doute, de moments d'aller-retour. Enfin, ça a été très compliqué. Si vous voulez, pour moi, c'est à la fois un roman sur l'histoire et il y a l'histoire du roman. Enfin, et l'un ne va pas sans l'autre. Donc j'arrive devant vous aujourd'hui avec quelque part le produit fini, enfin, même si je n'aime pas le terme de produit, mais c'est vraiment une longue histoire pour moi, qui est très émouvante, qui est inédite pour moi, parce que je n'avais jamais travaillé de cette manière. Je ne m'étais jamais confronté à l'histoire. Moi, je suis né en 65, et vous parliez très justement de ce retour de la guerre et de l'horreur qu'on entend tous les matins aux informations. Mmh. Moi, j'ai grandi vraiment dans les 30 Glorieuses, c'est-à-dire au moment de prospérité, les trois décennies de prospérité européenne, occidentale, où on pensait que la guerre était complètement impensable en Europe, hein, comme c'est vous l'avez souligné tout à l'heure. Et voilà, avec ce personnage de Sam Simon, je crois que j'avais l'envie, la curiosité, un petit peu de me raccorder à une histoire à laquelle, étant né dans une période de paix ou de paix un petit peu trompeuse, je pensais être très éloigné.
Alors c'est un personnage donc c'est une personne qui se confie à vous, mais qui justement après cette guerre porte en lui donc toutes ses blessures, ce qu'on appelle donc ses fantômes, et qui a du mal justement à en parler. Il n'arrive pas à en parler.
Oui, oui.
Et là vous, et c'est vrai que vous racontez dans le livre, Fabrice Lardot, il a à un moment, il a été donc dans des groupes de parole, il a à peu près suivi une psychothérapie. Mais là, donc, vous avez l'impression qu'il s'est confié davantage à vous. Avec le temps, ça a été plus facile, moins difficile pour lui.
Probablement, comme vous dites, il y a le produit du temps. Aussi parce que c'était peut-être plus facile quand même pour quelqu'un comme moi, qui avait plus de distance. Si vous voulez, c'était beaucoup plus facile pour lui que de le confier à sa femme, à ses enfants, à ses proches. C'est quelqu'un qu'encore une fois, je voyais une fois par an, pour lequel j'avais, je peux le dire, une forme vraiment d'affection, d'admiration. Mais probablement, vous savez, c'est comme si vous croisez quelqu'un dans la rue. Enfin, c'était pas ce statut-là, mais peut-être il y a des choses que vous pourrez plus facilement lui dire qu'à quelqu'un qui vous est proche. Enfin, vous n'avez pas la distance. Là, il y avait la double distance humaine et temporelle, comme vous l'avez dit. Ce que je ne sais pas, moi, c'est si, avant que je branche mon magnéto sur cette table de cuisine, s'il savait qu'il m'en parlerait. J'ai aucune idée, vous voyez, c'est un petit peu la magie des conversations, des entretiens, comme on a en ce moment, c'est qu'il y a vraiment la synergie de deux paroles, de deux personnes, qui produit une troisième chose à laquelle on ne s'attend pas forcément. Donc je ne sais pas si c'est venu comme ça. Mais c'est vrai que pour moi, ça a été long. C'est quelque chose qui est tellement loin de vous. Quand on vit dans un milieu protégé comme le mien, dans une période et un milieu protégé, on est complètement, c'est complètement surréaliste. On peut même pas l'envisager intellectuellement, ce genre de scène. Donc sur le moment, et je me souviens de son regard, il me regardait avec vraiment les yeux écarquillés, en me disant "Can you believe it? Can you believe it?" C'est-à-dire que lui-même, en m'en parlant, se demandait presque si ça avait existé. Et j'ai réécouté pas mal de fois, alors qu'encore une fois sa fille m'avait retranscrit la conversation, ce passage. Et chaque fois, j'avais c'est pas des frissons, le bon terme, mais c'était extrêmement émouvant pour moi, parce que je revoyais ce moment où il se confiait, et il confiait quelque chose qui est pas concevable et qui est une horreur qu'on pense pas faire vivre à son pire ennemi. Enfin, assister à ça, c'est inouï.
C'est toujours très, très étonnant, cette ambivalence. On dit, on vit une expérience qui n'est pas transmissible, mais en même temps, on le transmet.
On saisit
l'occasion de le transmettre.
Là c'était avec moi, peut-être que ça serait fait autrement. Je pense qu'aussi le côté peut-être un petit peu... Bon, il savait, Sam, que j'écrivais, il avait dû avoir une connaissance de mes romans, qu'il n'avait pas lu, parce qu'il ne lisait pas le français. Mais peut-être que le côté un petit peu formaliste, voilà, je vous interview, les choses sont arrivées comme ça. Et il me les a confiées.
Il faut rappeler donc les faits. Donc, Sam Simon est donc radiomitrailleur dans l'US Air Force. Son équipage donc est sélectionné dans le cadre de l'opération Frantic, décidée par Staline, Roosevelt et Churchill, vous le rappelez, en novembre 1943, lors de la conférence de Téhéran. Donc, son équipage doit se rendre à Poltava, au cœur de l'Ukraine. Et là, donc, les Russes sont désignés de force des hommes, des femmes, des vieillards, des enfants, qu'ils ont regroupés par groupe de cinq, et là, donc, ils s'exécutent. Donc, c'est une exécution, c'est un assassinat.
Ah, et c'est... Ça, ça l'est, je sais pas si on peut raconter la scène en tant que telle, mais...
En tout cas, le résumé.
Voilà, dans le... Comment dire... Bon, déjà, cette mission infantique, c'est très particulier, parce qu'en fait, c'est un épisode que j'ai découvert, qui n'est pas très connu de la Seconde Guerre mondiale. C'est un des rares exemples de collaboration militaire d'ampleur entre Américains et Soviétiques, quand même. L'idée de cette mission, c'était que Staline avait enfin accepté, c'était que des bombardiers alliés décollaient d'Angleterre et d'Italie, allaient vers l'Est en bombardant l'Allemagne, se posaient en Ukraine. Il y avait trois bases. Celle de Poltava est à peu près à 240 km au sud-est de Kiev, en plein cœur de la déflagration actuelle. Ils étaient ravitaillés, rechargés en bombes, et ils repartaient vers l'Ouest en rebombardant l'Allemagne, pour revenir en Angleterre et en Italie. Donc Sam, effectivement, se retrouve là-bas. Et ce à quoi il assistait succédait à déjà un bombardement très violent de l'aviation allemande pendant la nuit. Donc déjà, il a vécu des scènes de cauchemar en voyant des gens exploser, démembrés devant lui. Et puis, le lendemain, il entend à nouveau des coups de feu, des explosions. Il croit sur le moment, lui et ses compagnons d'armes, que à nouveau les Allemands attaquaient la base. Il n'en était rien. Et là, effectivement, alors je ne sais pas jusqu'où je peux vous raconter, vous voyez, en tout cas, il assiste à une scène qui, je pense, est intolérable pour deux raisons. La première, c'est d'assister à la souffrance humaine violente, qui est quelque chose dans ces conditions-là, d'être impuissant et de savoir, parce que c'est peut-être le moment où je ne sais pas trop jusqu'où je peux aller dans ce que je vous raconte, oui, de savoir qu'en fait, c'est un peu pour eux qu'on fait ça. C'est-à-dire que
l'essentiel des faits, si possible.
Ce qui engrange une culpabilité, mais je pense inouïe, avec laquelle je ne sais pas comment il a pu se débattre, puisque le sacrifice de ces civils, de ces hommes, de ces femmes, de ces enfants, c'est la condition sine qua non pour que leur avion puisse décoller. Donc vous imaginez comment on peut vivre avec ça sur le moment, dans les moments immédiats, et puis après. Moi, ce qui m'a, j'ai eu la chance de rencontrer Boris Cyrulnik, il y a 10 ans exactement, qui en connaît quelque chose sur la question du stress post-traumatique et de la mémoire traumatique. Et ce que lui avait vécu, c'était très intéressant, dans la synagogue de Bordeaux, à laquelle il a échappé à la déportation. Il est revenu beaucoup plus tard, vers la cinquantaine, dans ses livres et dans ses interviews sur cet épisode. Et ce qui était intéressant, c'est que d'une part, la mémoire traumatique, quelque part, ressurgit un petit peu comme, j'en sais rien, comme des alluvions, des choses qui montraient du fond d'un étang et qu'on ne peut pas contrôler, qui remontent à la surface à un moment donné, quand ils le veulent. Et qu'ensuite, surtout, il s'est rendu compte que le récit, enfin le récit qui se faisait dans son esprit de cette scène était complètement faux par rapport à ce qu'il avait réellement vécu. C'est-à-dire que lui, Cyrulnik, en fait, il a échappé à la mort parce qu'il a eu l'idée dans cette synagogue qu'on avait rassemblée notamment tous les juifs de Bordeaux, de grimper et dans les toilettes de la synagogue et de se coller au plafond. Et les gendarmes, quand ils sont passés vérifier, n'ont pas levé les yeux. Donc ils ne l'ont pas emmené. Et ensuite, il est monté dans une camionnette, dans laquelle un homme était ensanglanté, qui avait pris des coups de crosse dans le ventre, que les Allemands avaient battu à mort. Et l'histoire qui s'est racontée pendant très longtemps n'était pas toute celle-là. Il se racontait l'histoire en fait d'une gentille infirmière qui l'avait menée dans une ambulance. Et je pense que pour Sam, d'une autre manière, l'esprit humain, pour survivre, façonne un récit qui soit tolérable. Sauf qu'il y a un moment, et c'est ce qui est arrivé pour Sam Simon, je pense vers la cinquantaine, il y a un moment où certaines circonstances de la vie, j'ai un petit peu essayé de les énoncer, de les organiser dans le roman, comme notamment la guerre du Vietnam, qui a été évidemment une déflagration sociopolitique aux États-Unis, la mort de son propre ami sous ses yeux, enfin, toutes choses qui font qu'il y a un moment où tout ce que vous avez mis sous le tapis, sous le boisseau, vous explose à la figure, quoi.
Vous êtes bien à l'antenne d'Aligre FM. Je reçois Fabrice Lardreau qui publie « Les fantômes de Paul Tava » aux éditions Héliopole. Vous êtes bien sur le 93.1 Aligre FM dans version originale. Alors, j'aimerais aussi comprendre à un moment, est-ce que le fait pour Sam Simon d'être dans un pays qui a toujours été en conflit armé, donc après cette Seconde Guerre mondiale, donc bien sûr, il essaie de se refaire une vie, une existence. Alors, des années plus tard, bien sûr, il y a la guerre du Vietnam, il y a bien sûr, on peut aller plus loin, les années 2000 avec la guerre du Golfe, c'est ça. Est-ce que le fait d'être dans un pays toujours, qui est toujours sur des opérations militaires à travers le monde, est-ce que ça ne complique pas la situation pour lui, d'une certaine manière ?
C'est certain que la présence de la guerre pour quelqu'un pour qui la guerre est insupportable, ne doit rien arranger. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a eu la guerre de Corée, la guerre du Vietnam, comme vous le rappeliez, la guerre du Golfe, hein, tout ça. Après, si vous voulez, la limite, c'est que donc Sam est mort en 2011, et la limite de ma parole, c'est de pas, au nom de ce livre, lui faire endosser des choses dont je ne sais pas ce qu'il en aurait pensé.
Bien sûr.
Par contre, c'est certain que non, mais vous avez parfaitement raison. Il était furieux, bon, lui et sa femme Rose et leurs enfants, bon, sont comme des soutiens démocrates, ont une vision. C'est aussi à travers ce personnage, et ça me. À la fois, ça me fait plaisir d'en parler aujourd'hui, ça m'attriste vu ce que l'Amérique devient, l'Amérique de Trump. Mais Sam, pour moi, illustre, concrètement parlant, voilà, ce que j'aime dans l'Amérique. Ce que l'Amérique a été, quand même, l'Amérique de Roosevelt, l'Amérique du New Deal, une toute autre Amérique que celle que. Bref, les matins, aux informations, on découvre consterné. Enfin, pour moi, voilà, il est cette façade généreuse de l'Amérique. Effectivement, il était, je me souviens, voilà, je pense pouvoir parler sans me tromper, qu'il détestait Bush Junior. Voilà, l'invasion de l'Irak et toutes ces choses-là, l'imposture de cette campagne de Bush.
Vous le dites vous-même, Fabrice Lardon, le fait de travailler sur cet homme, soldat américain, pour ces traumatismes de guerre. Donc, c'est un pays auquel vous vous intéressez.
Oui, bien sûr.
Qu'est-ce que ça vous inspire, la situation aujourd'hui ? Vous êtes.
Je pense que malheureusement, je vais vous dire des banalités, mais on est tellement, je pense, vous et moi, catastrophés. Il n'y a pas un jour, c'est une espèce de feuilleton tragicomique, surtout tragique. auquel on assiste tous les jours, avec un dévoiement. On assiste à un dévoiement de la puissance. À l'époque, Sam Simon, après Pearl Harbor, décide de s'engager dans l'US Air Force. Bon, après, il y a les circonstances de Pearl Harbor. Aujourd'hui, il y a beaucoup de discussions possibles sur les raisons pour lesquelles l'Amérique s'est engagée après son isolationnisme en Europe et dans la Seconde Guerre mondiale, bien sûr. Pour autant, et vous l'avez très bien dit encore une fois tout à l'heure au début de l'émission, moi, c'est l'aspect humain qui m'intéresse. Mmh. Moi, le roman, pour moi, puisque je suis avant tout romancier et raconteur d'histoire, c'est un formidable outil pour explorer la psyché humaine. Et évidemment, celle de la guerre, elle est extrêmement perturbée, compliquée, douloureuse. Donc, effectivement, par rapport à ça, je fais une digression, mais j'ai eu la chance d'interviewer, il y a 20 ans exactement, l'écrivain portugais Antonio Lobo Antunes. Mmh. Je suis allé le voir à Lisbonne. Et donc, lui avait fait la guerre d'Angola. Il était à l'époque médecin psychiatre, on l'envoyait pendant 2 ans en Angola. Et je l'ai interviewé au moment en fait, où Bourgois avait publié les lettres qu'il envoyait à sa femme depuis l'Angola, où il racontait la guerre. Donc je suis allé l'interviewer, et pour faire un parallèle avec Sam Simon et revenir au sujet, enfin quel autre ce soir, je l'interviewe, l'interview se passe très bien. Bon, à l'époque c'était des petites cassettes, donc le son était moins bon. Je reviens à Paris, je retranscris l'interview, voilà, pour le rendre à mon, enfin, faire mon article. Et il y a un passage où il parlait justement de ses camarades qu'il allait retrouver, qui avaient sauté sur des mines ou des bombes la nuit, où sa voix s'étrangle. C'est-à-dire que je l'interview en 2006, la guerre d'Angola a dû terminer, je crois, en 1974, donc l'interview comme une trentaine d'années après tout ça, cet homme parlant à un journaliste, alors que des interviews, il en avait plein d'autres, et je n'étais pas parmi les journaux les plus importants qui venaient le voir, pour montrer, vous voyez, l'impact humain de la guerre, la déflagration à long terme d'une guerre, sa voix, rien que d'en parler, s'étranglait. C'est une amie à moi qui a une bien meilleure ouïe que moi, qui a été capable d'entendre les phrases qu'il avait voulu prononcer, mais que l'émotion et le stress l'avaient quasiment étranglé, et donc le son ne sortait pas. Ben c'est ça la guerre, c'est cette puissance, cette capacité, sur le long terme, cette guerre intérieure dont vous avez parlé, sur une très longue durée, à bousiller les gens, je veux dire, à faire que leur corps, comme leur esprit, leur voix parfois, s'effacent, et qui ne puissent même plus s'exprimer, tellement pour eux c'est insupportable, et le temps parfois n'y change pas grand-chose en fait. Il suffit d'un rien pour que l'étincelle reparte.
On va marquer une pause, écouter quelques notes de musique et reprendre l'entretien avec vous, Fabrice Lardreau, pour parler de votre livre « Les fantômes de Poltava », c'est aux éditions Héliopol.
Mystic, realistic, and simplistic. Spirits visit, how we live it. It's intrinsic, kismet kissed it. It's smeared like lipstick, colorful on our souls. A mouthful of gold or a drummer's roll. Stories get told about us, that's why things so blind without us. Wherever we are, you can feel the prowess. Whenever we move, yo, we turn the style up. I'ma just give black powers flowers, whether in the projects or the palace. Even when the pale horse tried to gallop and stir it up, we kept the balance. We move in silence, we move the loudest. Ancestors in my dreams, they moved the wildest, they prayed about us, praised and shouted. Picture this country being brave without us. A slave's nostalgia, moved through the woods with vigor. When we got free, the world moved with us. Now they wanna change the bodies, go figure. Used to call us, now they wanna be niggas. We the rivers that move through the jungle, yo. When we move, we make the world wonderful.
When we move, the whole world follows.
Like this, let me see what I could do right quick. My people were made in whose likeness. Boy, fly niggas ain't never flew like this. Pitch black butterfly from the other side. Somebody's style was lost, it wasn't mine. I'm in a small demographic of real ones dealing with all things classic. King's fabric, linen and silk, from the home of the solid gold, honey and milk. The ones who built it from the mud, soil and sand. A black man, the world in the skin of his hand. Pop de la sop when I shine beyond Stella. Fella, Kwame and Crummer, Mandela, leader, truth teller. The ink well dweller, my pen signs a New York Times bestseller. When I move, y'all move in my wake. BD energy, I generate. How to never move weak, I demonstrate. Celebrating my peeps when I innovate. For my dons and divas, weighing odds and evens to the number.
believers, vagabonds and heathens, achievers. We ain't satisfied with dreaming, long as I'm still breathing, watch how I move.
Le titre du morceau When We Move avec la participation de Black Sort et Sun Cooty sur Aligre FM 93.1. Vous êtes dans version originale. Je reçois Fabrice Lardreau pour son livre Les fantômes de Paul Tava. C'est publié aux éditions Héliopole. Fabrice Lardreau, quand vous rencontriez donc Sam Simon, qu'est-ce que par rapport à ces événements? Est-ce qu'il vous paraissait, puisqu'il avait du mal à en parler, encore une fois, on comprend, je reviens sur ce point-là parce que c'est important, puisqu'il s'agit quand même de mettre des mots, quelle que soit sous la forme écrite ou sous la forme parlée, de parler de ce traumatisme. Il vous paraissait honteux par rapport à ce qu'il avait vécu, angoissé, quel était le sentiment dominant par rapport à ce qu'il avait à cette épreuve?
En réalité, il m'a raconté de manière assez claire ce qu'il a vécu, puisque je l'ai longuement questionné aussi sur son enfance à Brownsville, sur tout le processus qui a fait que voilà, il s'est engagé, qu'il a combattu en Europe en 1944. Après, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai franchement pas saisi sur le moment cet épisode de Paul Tava, mais c'est sûr que si un sentiment, je revois son regard encore une fois, c'était la sidération. C'est-à-dire qu'il me regardait, can you believe it? Est-ce que vous croyez à ce que je vous dis? Vous pouvez imaginer ça. Can you imagine? C'est plutôt la sidération, je pense. La culpabilité, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'elle soit intervenue dans notre conversation. Mais la sidération.
Et je reviens à ce découpage dans la construction de votre livre. Une partie donc que vous nommez donc le chant,
première partie,
la première partie, et la deuxième partie, contre-chant. Pourquoi est-ce que ce découpage? Alors, ce sont bien sûr deux regards différents, si
oui,
on peut
oui,
dire, deux positions
sûr,
différentes. Pourquoi avoir emprunté ce projet cinématographique pour construire votre
livre?
C'est
une bonne question intéressante. Bon, d'abord parce que je suis à titre personnel très fan du cinéma, que d'une certaine façon, même si le récit est comme pour l'essentiel raconté chronologiquement, j'ai un peu le goût des flashbacks. J'ai commencé par cette scène sur la plage de Brownsville, où il a ce malaise. Et qu'ensuite, effectivement, ce chant, ce contre-chant, c'est un petit peu comme les deux faces d'une même pièce, quand même. C'est-à-dire, c'est l'idée de, peut-être, si on prenait aussi l'image d'un iceberg, de voir d'abord la partie émergée, puis vous le retournez, et vous vous rendez compte que la partie immergée est tout aussi, voire encore plus importante. Il faut d'abord regarder la partie émergée, avant peut-être d'oser regarder cette deuxième partie, qui est peut-être moins spectaculaire, puisque l'après-guerre, C'était pour ça que je crois que j'ai mis beaucoup de temps, parce que là, vraiment, dans la deuxième partie, quelque part, je rentre un peu dans le dur, hein, d'une certaine manière, pour un romancier. Il fallait décrire la vie d'une famille américaine. Hein. Donc ça, c'était aussi vraiment... Ça restait mon projet d'origine. Je l'ai continué, je l'ai simplement resserré. Je voulais vraiment aussi identifier cette famille, ce quartier où ils ont grandi, que les choses soient assez charnelles, que les choses soient assez concrètes. Exactement, concrètes. Mm-hmm. Et puis voilà, essayer, tenter, parce que ce n'était pas facile pour moi, de montrer comment lentement, comme ça, insidieusement, le passé refaisait surface. Et que pour lui, qui a pourtant vécu l'horreur de la guerre, encore une fois, mais quelque part, tout ce qu'il m'a raconté et ce que je raconte dans la première partie, quelque part, il était un peu dans l'action. C'est-à-dire que, mine de rien, il y a eu plusieurs épisodes que je raconte dans ces missions aériennes en Europe. Par exemple, un des épisodes où les moteurs du bombardier, donc du B-17, quand ils rentrent de mission en Allemagne, s'éteignent les uns après les autres et ils sont menacés par des chasseurs allemands. Et il me racontait très bien Sam lui-même que, en fait, sur le moment, alors que, a priori, tout était fait pour qu'ils se fassent descendre, hein, ils ont été miraculeusement sauvés par un chasseur américain qui est intervenu, qui est sorti d'un nuage, comme ça, quasiment comme un ange, qui est arrivé pour leur sauver la vie. Hein. Mais Sam était dans l'action. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, en plus, en tant que radio-mitrailleur, il était celui qui était en communication avec le pilote. Donc, si vous voulez, il était dans l'action. Et dans ces moments-là, il n'y a pas que la guerre qui le génère. Quand vous êtes concentré seconde après seconde, millimètre après millimètre sur l'action, quelque part, la peur n'a pas sa place. Une fois que vous revenez à la vie civile, ils font d'une famille, ils se marient, ils font d'abord un commerce, cette entreprise de nettoyage à sec, puis après ils trouvent un travail, ils travaillent à la poste. Là, les choses sont plus compliquées parce qu'il y a des espaces de temps qui laissent la place aux souvenirs. Mmh. Et à partir de ce moment-là, et avec la... Enfin, je ne suis pas expert en mémoire traumatique, mais avec ce que j'ai compris de Cyrulnik, à partir de ce moment-là, vous avez des possibilités pour que les fantômes, enfin quel titre que j'ai donné à mon roman, que là ils arrivent et ils ont la place, ils peuvent prendre la place. Et à partir de ce moment-là, donc c'était plus compliqué pour lui. Pour moi, il fallait, puisque c'est un roman, maintenir une certaine dramaturgie, donc quelque chose qui était beaucoup moins spectaculaire.
Alors il faut souligner aussi que vous expliquez bien dans le livre, hein, que c'est un jeune homme, quand il part à la guerre, qui a envie de partir à la guerre. Hein. Il est très confiant, il est sûr de lui. C'est quand même toute cette partie-là aussi, avant ce drame de la caisse automatique, c'est très vivant, c'est un homme d'action, combattant aussi.
Moi, c'est ce qui m'a fasciné. Alors, on en a discuté souvent avec sa fille et j'y ai repensé moi-même. C'est-à-dire que... Il était non pas modeste, mais simple par rapport à ça. Il expliquait que c'était un peu l'inconscience de la jeunesse. Mmh. C'est une partie de l'explication, mais moi, je trouve qu'il a eu un courage extraordinaire, cet homme-là. C'est-à-dire que il a d'abord voulu s'engager. Bon, il était trop jeune, donc il fallait une autorisation de sa maman, que sa maman lui a refusée. Après, donc, pouvant pas s'engager, il a travaillé sur les chantiers navals militaires de Brooklyn, que j'étais visité, mais maintenant, enfin, c'est des chantiers confirmés. Hein, donc, il y a un musée, c'est plus du tout comme à l'époque. Et là, comme il était travailleur pour l'armée, il n'avait aucune obligation de s'enrouler. Quoi. Il aurait très bien pu faire la guerre comme ça. Donc, il continue, il retourne pour se faire...
Il insiste
complètement. On lui refuse, on veut le réformer parce qu'il avait trop de tension et les pieds plats. Il réinsiste, on lui reprend la tension. Donc, vous imaginez un petit peu quand même le processus...
C'est bien écrit dans
le processus qui se passe... pour que tout ça, pour aller combattre, pour risquer sa vie. Moi, c'est quelque chose qui me laisse vraiment admiratif. Je veux bien croire qu'il y a une part d'inconscience de la jeunesse, mais après, quand même, voilà, et vous vous retrouvez sur une base aérienne en Angleterre, et là, vous retrouvez embringué dans des missions, il fallait en faire une trentaine, hein, sachant qu'au bout de quelques-unes, déjà, la plupart des avions étaient descendus par les Allemands, et bien, il continue. Alors, moi, c'est comme quelque chose qui me sidère. Enfin,
Il y a des remarques qu'il tient aussi qui sont très intéressantes. Au moins, il parle donc du bruit des armes.
Oui, oui.
Et il dit qu'il y a un côté très, j'ai pas le terme exact, très très hollywoodien.
Oui, 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 oui,
il se rend compte que le côté spectacle La mise en scène spectacle, c'est quelque chose qui est déjà présent au sein de l'armée, au
c'est
sein
vrai.
De cet appareil.
Évidemment, vous avez parfaitement raison. Dans, en fait, alors j'ai beaucoup lu parce qu'il y a ce que Sam m'a raconté. Bon, il est malheureusement mort en 2011, une des choses que je n'ai pas pu lui redemander. J'ai beaucoup lu notamment de témoignages de vétérans de cette base de Netichot. Il y a deux livres en anglais que je me suis procuré qui fourmillent de détails très concrets, de témoignages de vétérans. Et effectivement, sur la question... Donc vous parlez là d'un certain spectacle, ça m'a intéressé sur les sociétés américaines. Mmh. Si vous voulez, les briefings, le matin, très très tôt, ils assistaient à un briefing où on allait leur annoncer, si je puis dire, le programme de la journée. C'est-à-dire les lieux où ils allaient risquer leur vie, notamment en Allemagne jusqu'à Berlin. Et de ce que Sam m'a raconté, mais surtout de ce que j'ai lu après, c'était vraiment déjà organisé comme... et je lui fais dire un petit peu que l'Amérique, c'est comme le pays du show business... Mais c'est pas galvaudé, c'est-à-dire vraiment, il y a une manière très américaine de mettre en scène les choses, qui est un des traits culturels américains, après qui a énervé le monde entier. Et puis, sur le bruit dont vous parliez, ça, c'est dans des documentations que j'ai pu compulser, c'est-à-dire qu'effectivement, si vous voyez les films qui ont été faits sur la Seconde Guerre mondiale et comment ils sont assez nombreux, quoique sur les bombardiers, il n'y en a pas tant que ça, en fait, qui restituent de l'intérieur ce qui se passait. Pour que les dialogues puissent se tenir, quand ils communiquent entre eux, ils s'entendent. En réalité, de ce que racontent les gens qui étaient dans ces avions, c'était un bruit mais infernal. En fait, on n'entendait rien. C'est-à-dire que quand vous voyez des films, vous distinguez très nettement les moteurs des avions voisins. Enfin, ça vous semble, c'est une bande-son cinématographique qui a été travaillée, montée, etc. Dans la réalité, c'était infernal. Une fois que vous aviez atterri, si par chance vous reveniez vivant de la mission, vous atterrissiez sur le terrain, déjà vous trembliez de partout parce que c'était des tremblements, déjà des vibrations. Vous étiez complètement assourdi parce que vous aviez entendu pendant des heures. Enfin, c'est une réalité physique qui est différente de celle que des films ont bien voulu... mettre en scène.
Ouais. Mais vous-même, Fabrice Lardoise, est-ce que vous, la question de la guerre vous intéressait en tant que romancier, journaliste? Est-ce que c'est un sujet qui vous intéressait?
Alors, j'ai lu, comme beaucoup de lecteurs de romans, des livres sur la guerre. J'ai vu beaucoup de films, peut-être plus vu de films que j'ai lu de livres. Il y a les livres de Vassili Grossman, il y a pas mal de livres, de grands livres qui ont été faits sur ce thème. Mais comme je vous disais au tout début de l'entretien, mon milieu et ma génération faisaient que quelque part j'étais éloigné de cette violence radicale. Je ne la connaissais pas et je ne sais pas si sans le hasard de cette rencontre avec Simon, je m'y serais moi-même littérairement intéressé pour y consacrer 10 ans de ma vie. Quoi.
Et en même temps, comment arrive-t-on à écrire sur un tel sujet? Aujourd'hui en tout cas, sans être soumis à ce qui se passe aujourd'hui.
C'est une bonne question. C'est peut-être le mécanisme de la fiction romanesque. Hein. C'est-à-dire que je crois profondément que par le roman, on peut se mettre dans la peau de n'importe qui. C'est-à-dire que le pouvoir, ça c'est le grand pouvoir du roman pour l'écrivain même comme pour le lecteur. Tous les romans qu'on lit nous permettent de vivre avec l'auteur ou l'autrice du livre, de vivre dans des pays, dans des époques, dans des psychés qu'on ne connaît pas. Et le roman nous enrichit de ce point de vue-là. Donc du point de vue de l'auteur, c'est effectivement là où ce livre pour moi est un peu hybride parce que à la fois je rapporte des choses. Et en même temps, d'abord, il y a comme une part de fiction, il y a comme un personnage, par exemple, le personnage du mécanicien, sur la base, n'a pas existé. Il y a quelques situations qui n'ont pas existé. Mais parfois, le miracle de tout ça, c'est que l'invention, les espèces de raccordements qu'on fait entre les situations, les petites liaisons qu'on fait, disent les choses. Et qu'on est obligé de passer par là, c'est le mécanisme, encore une fois, du roman. Donc, on essaie de coller au plus près... de choses qu'on n'a pas vécues, effectivement. Mais vous le dites très justement. Moi, j'ai vécu, encore une fois, de manière très protégée. Je ne connais pas la violence physique, encore moins celle de la guerre.
Est-ce que vous avez le sentiment, Fabrice Lardoise, que pour écrire ce livre, vous avez été davantage romancier que journaliste, ou si on peut présenter les choses comme ça?
Non, mais c'est les deux. Je dirais les deux. Les deux, parce que d'abord, j'ai mené un travail très long, comme je vous expliquais, de repérage physique à New York, en Angleterre, d'interview. De lecture. C'est la première fois qu'un de mes romans comporte à la fin une petite bibliographie des livres que j'ai lus ou compulsés pour le livre, parce que le besoin n'était pas le même pour les précédents. Donc je dirais les deux. Et j'ai voulu à la fois être fidèle aux choses et en même temps leur donner la texture, l'épaisseur, l'énergie du roman. C'est un petit peu ça que j'ai voulu concilier dans ce livre.
Et est-ce que, en règle générale, avant d'arriver à ce projet, vous l'avez expliqué, hein, qui est très important pour vous, comment est-ce que vous choisissiez vos sujets auparavant?
Souvent, les sujets s'imposent. Oui, c'est-à-dire que, bon, là, c'était une rencontre, donc ça s'est imposé physiquement. Sam est entré dans une pièce. Cet homme, je vous dis, m'a plu. Je ne sais pas, je ne crois pas que je puisse le dire autrement. Cet homme m'a plu tout de suite. Son sourire, son regard m'a plu. Après, pour les autres sujets, mes livres se partagent entre des romans plus réalistes et d'autres. Moi, je suis aussi grand lecteur de fantastique et de science-fiction. J'aime aussi les possibilités que j'aime, par exemple, beaucoup des auteurs comme Philip K. Dick, hein, vraiment pour moi un grand auteur américain et un visionnaire d'ailleurs. Et l'Amérique d'aujourd'hui, il avait déjà lu des gens comme Norman Spinrad. Enfin, il y a des grands auteurs américains, malheureusement, qui avaient vu La tyrannie à venir. Mais donc voilà, il y a certains de mes livres qui vont plus dans ce sens. L'un d'entre eux utilise le voyage dans le temps. L'autre, La ville rousse, imagine un Paris un petit peu dans un futur proche. Mais la plupart du temps, les livres, pour moi, partent d'une image, d'une situation. Et en réalité, si cette image, si cette situation, si ce personnage commence à vous obséder, c'est assez bon signe. Bon, j'ai plutôt un caractère obsessionnel. Mais si cette image demeure, vous commencez en fait à... J'allais dire comme un petit pouce qui arriverait de... vous la laissez grandir, les racines aussi vont s'étendre en dessous. Et petit à petit, vous allez nourrir tout ça. Il y a des ramifications qui vont arriver. Et à partir de là, alors je ne saurais pas vous dire à partir de quel moment, il y a un moment plus conscient, vous savez que vous allez faire un roman, et où là, de manière plus réfléchie, vous ne laissez pas seulement les choses venir à vous, vous allez vers elles. Vous commencez à réfléchir au développement narratif que vous pourrez tirer, aux situations que vous pourrez inventer, aux liens entre tout ça, à la construction. Donc on bascule, vous voyez, de cette image, de cette situation qui s'impose à vous, à quelque chose qui est davantage de l'ordre d'un travail quand même, de romancier, qui est de se dire, voilà, j'ai un sujet potentiel, et là, qu'est-ce que je vais pouvoir en faire, comment je vais pouvoir l'organiser. Et je me suis effectivement, enfin vous l'avez très bien, dans les questions qu'on vient poser tout à l'heure, voilà, pour Paul Tava, c'était aussi des questions que je me suis posées sans dans un premier temps pouvoir bien y répondre. Puis après, petit à petit, on trouvera la solution.
Parce que dans le cas de ce livre, vous auriez... Est-ce que, par exemple, vous avez hésité? Enfin, est-ce que là, effectivement, on a... Le sujet vous a pris, vous a saisi, mais sous la forme roman, entretien... Est-ce que vous avez très vite choisi sous quelle forme vous parleriez donc de...
Je pense que si je suis honnête, et j'ai très vite comme su que j'en ferai un roman. Au début, c'était un très long roman. Il y a une première version que j'ai faite, en fait, qui était un roman un peu choral, où je faisais s'exprimer tous les membres de la famille. Et puis justement, il était trop documentaire. Et il ne fonctionnait pas. Donc voilà. Et je profite comme qu'on est ce soir pour dire que c'est grâce comme à Serge Safran, hein, mon éditeur, que je suis là ce soir, parce que c'est lui qui a su, de cette version d'origine et de celle que je publie aujourd'hui, me conduire, me montrer la voie pour trouver les solutions de tout ça. Mais pour ce roman-là, pour ce texte-là, j'ai su très vite que j'en ferai un roman. Après, c'était en fait un sujet intimidant. Tout à l'heure, vous m'avez demandé comment, effectivement, on peut parler de la guerre sans avoir fait soi-même la guerre ou connaître directement et directement la guerre. J'étais effectivement intimidé, mais je le suis toujours. C'est-à-dire que là, je peux m'exprimer avec une certaine confiance sur le sujet sur lequel j'écris, mais de manière générale, comment dire ? Je ne fais pas partie des écrivains... j'écris parce que j'ai l'impression d'écrire parce que je ne comprends pas bien le monde. C'est-à-dire que je vois parfois, j'ai des confrères, des consoeurs qui s'expriment avec parfois brio sur des sujets d'actualité, de géopolitique ou d'autres. Je les admire parce que moi, j'ai toujours ce sentiment que j'écris, non pas parce que je comprends mieux le monde que les autres, mais plutôt le contraire, que vraiment, je n'arrive pas à le comprendre. Et donc, écrire sur la guerre, écrire sur l'histoire... pour moi, c'est, j'ai pas dire que j'ai un peu le syndrome de l'imposteur, mais je trouve ça très intimidant. Finalement, et là, il m'a fallu énormément, c'est peut-être de temps, il avait fait une décennie, enfin 10 ans pour moi, pour peut-être aussi non seulement savoir comment maîtriser factuellement, littérairement le sujet, mais aussi peut-être me dire que voilà, je pouvais le faire. Il fallait aussi que moi-même j'accepte que ça se fasse. Et pour un sujet comme celui-ci, ça va. Quand on invente des mondes, comme je le fais dans La Ville Rousse, dans mon précédent roman, j'imagine un Paris envahi par les renards. Je peux laisser libre cours à mon imagination. J'ai pas de justification, sauf dans la logique interne du récit, j'ai pas forcément à justifier, même si je le fais à ma manière, la venue des renards. Là, j'ai affaire à une histoire qui s'est écrite, à quelqu'un qui a existé physiquement. Donc c'est intimidant. C'est surtout qu'en soi-même, on a, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on n'a aucune expérience directe, indirecte. J'ai quelques récits très éloignés. Par exemple, moi j'ai une belle-sœur qui a vécu au Liban, qui a connu la guerre du Liban, qui m'en a un petit peu parlé, qui a des souvenirs d'enfants. Et d'ailleurs, quand elle m'en a parlé, je me suis dit voilà que tous les traumatismes de la guerre, vous retrouvez des choses. Vous retrouvez même dans le timbre de la voix des gens qui vous parlent de la guerre. C'est assez troublant, ça. Cette idée que cette violence radicale que ça imprime dans la psyché humaine, la voix la traduit, il y a une espèce d'empreinte sonore, charnelle, comme ça, de la guerre, qui fait que sous des latitudes différentes, des époques différentes, des générations différentes, malheureusement, le corps humain enregistre ces attaques comme ça et les traduit parfois de manière similaire.
Vous êtes bien sur Aligre FM 93.1. Je reçois Fabrice Lardreau qui publie aux éditions Héliopol Les fantômes de Paul Tava. Fabrice Lardreau, c'est très poignant tout ça, cette tessiture de la voix de la guerre, notamment. Il y a d'autres aspects effectivement de ces traumatismes chez ce personnage que vous avez rencontré, Sam Simon. Quand vous dites que cette hésitation, vous avez parlé de la guerre, est-ce que c'est pas une forme de pudeur ou de respect tout simplement pour les...
Aussi, c'est vrai, si, bien sûr, c'est... Oui, c'est...
De quelque chose qu'il faut toucher avec délicatesse.
Oui, c'est ça. Parce que, en plus, on a comme affaire à une souffrance énorme. C'est-à-dire que dans les romans que j'ai écrits et publiés, il y a des sujets plus ou moins, je ne vais pas dire lourds ou graves. Et là, vous avez affaire à quelque chose d'individuel et de collectif qui est lourd. Donc forcément, on est intimidé, comme je le disais. On avance vraiment avec... doucement. Enfin.
Alors, c'est intéressant de s'interroger sur ce que peut faire le romancier. Est-ce que pour vous, le romancier, est-ce qu'ils peuvent apporter quelque chose par rapport à une historiographie qui n'est pas traitée sur un sujet, par exemple? Est-ce que le romancier peut venir au secours d'une carence historiographique?
Oui, c'est-à-dire que... effectivement, je ne suis pas historien, donc je n'ai aucune légitimité en la matière. Je pense qu'en fait, comme vous l'avez dit au tout début de l'émission, moi, c'est un éclairage humain que je vais apporter. C'est-à-dire que les livres d'histoire, parfois, évidemment, ils racontent une histoire collective, je ne sais pas, la Révolution française, la Première, la Seconde Guerre mondiale, on parle des grands faits, des grands événements, Waterloo, j'en sais rien. Enfin, moi, je suis vraiment lecteur de romans parce que, j'aime bien cet éclairage humain. Vous partez de l'individuel, vous partez d'une psyché humaine. Et quand même, souvent, cette psyché humaine qui est individuelle, qui est singulière, elle a des correspondances collectives. Donc, elle apporte un éclairage humain. Je pense que... J'aime beaucoup Victor Hugo, par exemple, c'est ce que je pense à l'histoire. Donc, je n'ai lu Les Misérables que l'année dernière, vous voyez, donc c'est récent pour moi.
On a tout le temps, j'ai envie de dire, une urgence à le lire à 20 ans.
et ce livre m'a ébloui. Voilà, il retrace évidemment de grands événements collectifs de l'histoire française, et puis de Paris en particulier. Et ce qui est intéressant quand vous lisez, c'est qu'à la fois, Hugo, c'est... restituer le collectif, mais comme avec la psyché de ces personnages, avec Jean Valjean, tous ces gens-là, vous avez une idée quand même de ce que, à cette époque, les gens pouvaient vivre et ressentir. Et là, de ce point de vue-là, peut-être que par rapport à l'historien, le romancier, il peut imprimer dans le, l'esprit de ses lecteurs cette possibilité de visualiser, de ressentir humainement ce que l'histoire collective traduit dans la psyché individuelle. Ça, effectivement, ça vous enrichit, ça complète, ça donne un éclairage complémentaire qui se substitue pas à l'historien. Il faut quand même aussi que sur l'histoire, même si M. Trump nous dirait le contraire, en parlant de faits alternatifs, de post-vérité, mais il y a quand même un moment où il faut s'entendre sur des faits.
Sur
il y a une
faits,
factualité historique sur laquelle je pense qu'on doit pouvoir tous s'entendre. Et sur cette factualité, qui est souvent le fait des États, de choses collectives, le roman permet, je pense, et ça c'est quand même intéressant, de faire rentrer le lecteur ou la lectrice dans les émotions de quelqu'un, je parlais d'Hugo, qui a vécu la Commune de Paris, qui... Ça, c'est intéressant, je pense, cette possibilité de... je pense que c'est une forme d'enrichissement, enfin de complément. Ça, c'est assez... c'est une des possibilités du roman. Et en plus, le roman a cette possibilité, moi, c'est d'être un genre un peu protéiforme, c'est-à-dire que, contrairement au... à l'historien qui est comme un scientifique, enfin, je veux dire, qui a une démarche scientifique, donc qui est comme tenu, voilà, je pense qu'il y a certaines contraintes. Enfin,
une méthode.
Exactement, que les historiens s'imposent. Le romancier, enfin, en tout cas le roman, qui est un petit peu finalement un genre artistique tardif, hein, c'est un genre qui peut intégrer un peu tout, c'est-à-dire qui peut intégrer la prose, la poésie, un passage scientifique, un passage théâtral. Et donc, cette espèce de carrefour comme ça, formel, permet aussi, comme je pense, de traduire des choses que les autres genres artistiques ou les autres sciences...
Pas. Non, exactement. C'est ça. Il peut dire des choses,
exactement.
Tout en étant donc des vérités humaines.
Bien sûr.
Bien sûr, ce n'est pas l'exactitude historique, mais c'est des vérités humaines,
exactement,
quand même.
Exactement.
Par exemple, quand vous écoutiez Sam Simon, est-ce que, pour vous, il... arrivait, c'est pas facile, j'imagine, de le repérer. Est-ce qu'il avait à restituer ses souvenirs, ou bien vous sentiez aussi quelqu'un qui voulait corriger des choses, une réalité, des souvenirs? C'est pas simple, en effet, à déceler, sans doute, pour celui qui écoute. Mais comment vous le sentiez par rapport à ses souvenirs?
Je crois pas.
À l'énoncé de ses souvenirs.
Alors, j'essaie de me souvenir, parce que ces entretiens remontent à un certain temps, mais... au contraire, moi, j'ai eu le sentiment d'avoir affaire à un homme extrêmement droit et simple. Simple, pas au sens de la simplicité, au sens de quelque chose de direct. Je crois pas. Après, si vous voulez, toute personne qui tient un discours sur elle-même ou qui est interviewée, peut-être qu'on a tous une façade sociale, une volonté inconsciente de se présenter, peut-être sous un bonjour.
Mais je ne dis pas forcément ça en forme d'insincérité, mais est-ce que le temps n'avait pas un peu déformé les choses? C'est surtout en ce sens-là.
D'accord.
Vous certainement, qui était quelqu'un qui était fidèle à ses blessures, si je puis dire.
Moi, je crois, encore une fois, avec cette limite que je ne sais pas, avant qu'il s'assoie devant moi à la table, s'il avait prévu de me parler ou pas de ce qui est quand même quelque chose de majeur dans son existence, c'est ce qu'il a vécu à Poltava. Je ne sais pas du tout s'il avait prévu. Voilà, il dit voilà, est-ce que dans les jours, les heures qui ont précédé le rendez-vous qu'on avait dans l'appartement de sa fille, est-ce qu'il s'était dit bon, allez, demain, je vois Fabrice Landreau, il veut, je lui raconte ma vie, allez, je vais parler de Poltava. Je ne sais pas du tout.
Mais
j'ai aucune idée.
Cet aspect est important, puisque tout au long du récit, Fabrice Landreau, vous parler d'une personne qui a du mal justement à dire toutes ces traumatismes et qui effectivement, vous parlez de quelqu'un qui est dans cette position et qui ça aboutit à ce texte.
Oui, c'est vrai. Qui est une confession, effectivement. Après, moi je l'ai organisé, c'est un peu le travail ou la démarche du romancier, on parlait cinéma ou du cinéaste, c'est-à-dire que c'est dans un temps limité, même si le roman n'est pas limité comme l'est le cinéma par un format, j'en sais rien, de 90 minutes. Il faut quand même arriver à condenser dans un espace-temps donné toute une vie pour laquelle on fait des choix. On fait des choix à la fois de ce qu'on va garder du personnage et puis de comment on va l'organiser.
Et après, la question qu'on peut se poser, parce que le titre du livre, ça parle de fantômes, Qu'a-t-il pu en faire? On n'en saura jamais.
Non, parce qu'encore une fois, j'ai pas pu discuter avec lui plus tard de tout ça. Bon, malheureusement, il n'ira pas. Sa fille a lu le texte que je publie, donc Sam n'aura pas lu ce que j'ai publié. J'espère, voilà, s'il me voit quelque part, que, voilà, qu'il est content de ce que j'ai fait. Ce qui est certain, c'est qu'au vu de ce qu'il me racontait et de ce que j'ai tenté de traduire, sa vie n'a plus été la même le soir du 23 juin 1944. Ouais. Sans forcément qu'il le sache sur le moment. C'est-à-dire que on ne se rend pas forcément compte tout de suite de l'impact des choses qu'on vit ou qu'on entend. Il y a un travail du temps et les choses prennent leur pleine mesure avec le temps. Et il est certainement passé par des moments où voilà, il arrivait où c'était tu. Et d'autres fois, ça ressurgissait. Enfin, voilà, Donc effectivement, par rapport au moment où il m'a parlé, comme vous disiez tout à l'heure, c'était comme un madame qui était plus apaisé. C'est-à-dire qu'au moment où moi je l'ai rencontré, bon, il avait pris sa retraite, il avait voyagé avec sa femme, il était devenu grand-père. Donc il était dans une situation qui était beaucoup moins inconfortable que des situations, y compris matérielles, qu'il avait vécues par le passé. Donc peut-être qu'il pouvait aussi regarder les choses, et c'est pour ça qu'il me les a dites, avec quelque chose d'un peu plus posé, d'un peu plus distant. Mais je pense qu'il a quand même vécu l'enfer. Hein. Je pense qu'il a eu des moments. D'ailleurs, je ne sais pas si je l'ai gardé dans le livre, mais il a en fait, avant qu'il tombe malade et qu'il meure, il a écrit deux petits récits sur sa vie, la guerre pour ses enfants. Et je crois qu'il a cette formule de dire, en gros, tous les matins, je me demandais comment j'allais survivre. Enfin, je sais que sa femme Rose a été d'un secours énorme. Donc il y a eu certainement des moments dans sa vie où je pense que ça prenait des proportions dramatiques. Enfin, vous demandez en gros, là, il est 9h du matin, mais comment je vais tenir jusqu'à 8h du soir?
Voilà le texte, en tout cas, c'est Les fantômes de Paul Tava. Merci.
Merci à vous. Merci.
C'est publié aux éditions Héliopole. Donc, un beau témoignage. Merci d'être venu nous rendre visite.
Merci
à l'Aligre FM.
Merci beaucoup.
Je remercie Armand Gury qui était à la technique ce soir. Dans un instant, vous retrouverez Dancehall Reggae Vibes. Merci à vous, amis auditeurs et auditrices, de nous avoir écoutés. Passez donc un bon week-end à l'écoute d'Aligre FM 93.1. Je vous retrouve samedi prochain, 19h. Bon week-end, bonne semaine. À bientôt.
Version originale, Patrick Léon Émile. Yeah.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.